Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'Akba Omer, mais avec un angle de vision assez précis, c'est-à-dire lié à la terre d'Israël. On sait d'une manière générale que l'Akba Omer, c'est le jour où se révèle en fait la splendeur de la Torah, l'intériorité de la Torah, le sens profond de la Torah, c'est-à-dire le secret, le sod, la Kabbalah, et le lien avec la terre d'Israël est évident, puisque la terre d'Israël est en fait une terre de secrets. Je veux dire par là que c'est pas seulement c'est une terre où on peut dévoiler les secrets, c'est une terre qui elle-même, dans sa structure intérieure, est révélatrice des secrets de la vie. Ça veut dire que l'approche que nous devons avoir face à l'affaire d'Israël est une approche profonde. On ne peut pas regarder la terre d'Israël d'une manière superficielle. C'est faux. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais réellement comprendre la terre d'Israël si cette vision n'est pas une vision profonde, n'est pas une vision intérieure. Et donc c'est très très important de comprendre le sens donc secret qui régit cette terre et qui se met en relief à partir de cette terre-là. Pourquoi est-ce que la terre d'Israël, justement, doit être prise par le sens du secret? Simplement parce que c'est en fait la première matière. Depuis la création du monde, la cristallisation en fait des valeurs infinies au moment de la création, le début c'est la terre d'Israël. Avec des mots simples, le passage entre l'infini et le fini, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire que le premier mouvement de l'infini pour devenir monde, pour devenir création, la première apparition de terre, de matière, c'est ici. Donc cette terre, en fait, elle appartient et à la création, et en même temps à quelque chose qui est avant la création, puisque c'est l'intermédiaire, puisque c'est de là que l'infini est devenu fini pour la première fois. C'est de là où le début de la matière est apparu. Donc, ce point de contact est le premier point de l'univers tout entier, de toutes les galaxies, et par conséquent, il a une qualité intrinsèque, une qualité intérieure, qui le relie naturellement à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire aux valeurs de l'infini qui ont précédé. Le Rav Kook nous dit dans le livre de Horoth que comprendre la terre d'Israël, étudier la terre d'Israël, parce que c'est une étude, ça doit s'étudier. Mais si on l'étudie d'une manière superficielle, eh bien on est immédiatement dans l'erreur qui nous pousse malheureusement à l'exil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas résister à cette terre. On est poussé à sortir de cette terre et à s'exiler. Il dit donc que pour rester sur la terre d'Israël et pour comprendre le sens réel de cette terre, cela passe par l'étude des profondeurs de la Torah, c'est-à-dire de l'âme de la Torah. Et c'est en cela que l'Akba Omer est important. Le 33e jour du Omer, l'Ad veut dire 33, mais c'est en même temps Gal, en inversant les lettres, c'est-à-dire dévoilement, onde, vague, dilouille, dévoilement, révélation. Donc le mot Gal exprime en fait le retrait d'un voile, comme il est écrit dans le verset Gal Einai Ve'abita Niflaot Mitoratera. Enlève-moi le voile qui cache mes yeux pour que je voie les profondeurs de ta Torah. Donc le mot Lag n'est pas tombé par hasard, on va dire, dans la période du Homer. C'est une date très important, qui en fait est le trait d'union entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Quelque chose change à partir de l'Agba Omer. Seulement au niveau même des chiffres, avant l'Ag, il y a l'Amed Bet. C'est 32, puisque l'Ag c'est 33. Donc, on parle d'un cœur, l'Aide. Les 32 jours qui précèdent le 33e jour sont le cœur. Combien de jours reste-t-il après l'Ag pour arriver à Shavuot? 17. Ça veut dire que après l'Ag Baomer, on a encore 17 jours pour arriver à Shavuot. 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. Donc en fait, tout le Omer, c'est Lev Tov, avoir un bon cœur. Et au milieu, il y a l'Ag Baomer. C'est-à-dire l'Ag Baomer, c'est la charnière entre le bien et le cœur. Entre la révélation du bien et les qualités de notre cœur. Je pourrais résumer et dire que notre véritable travail, c'est d'arriver à cela, pour atteindre la lumière de Chag HaShavuot, c'est-à-dire d'avoir un bon cœur. C'est l'essentiel du travail. Que veut dire avoir un bon cœur ? Transformer notre désir de recevoir en désir de partager. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, prendre conscience que nous devons grandir. Car la différence entre un petit et un grand, c'est dans sa manière de partager ou de ne pas partager. Ceux qui partagent sont grands. Et ceux qui ne partagent pas restent petits. C'est là-bas. Mon stylo de cœur. C'est foutu, là. C'est là-bas. Donc en fait, toute cette période du Homer est là pour nous préparer à être des grands, à grandir. Pour grandir, il faut faire un travail. Il faut commencer à comprendre que le monde ne s'arrête pas à moi-même, à moi seul. Il faut comprendre qu'il y a autour de moi, qu'il y a au-delà de moi, qu'il y a un partage, qu'il y a une vision globale des choses, que je ne peux pas traiter le judaïsme à mon niveau personnel seulement. Que je suis obligé de voir la notion de mon peuple. Et effectivement, l'une des caractéristiques les plus importantes de la Kabbalah, c'est que dans le travail du Kodesh, on arrive à cette vision du Klal Israël. C'est-à-dire que la Kabbalah, c'est ce trait de la Torah, le Zohar, toute la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on va fêter le jour de sa mort, c'est bizarre, de fêter le jour de la mort de quelqu'un, ça devrait être triste. Des iloulotes pour des tzadikim, mais on ne fait pas des iloulotes pour des gens qui sont morts, on fait des askarotes. Pourquoi ? Justement. Pourquoi, comment, quelle est la différence entre quelqu'un qui est basique, entre guillemets, qui a de la peine le jour de chaque fois que tu commémores ta date de mort, et d'un coup tu fais des fêtes. C'est quoi ce truc-là? Oui, oui, on est sûr que c'est le jour de ta mort. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose le jour de la mort. D'accord. Nachon. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ce jour-là, plus que les autres jours, une révélation spéciale de la qualité de cet homme, de ce qu'il représente, de sa Torah, de sa manière de voir la vie. Tout ça se met en relief le jour même de sa disparition. C'est comme si le corps a disparu pour laisser place à toute la Torah qu'il avait en lui. tout se met en relief, ce jour-là. Et donc, ce jour de Lag BaOmer, donc la révélation, c'est arrivé à comprendre la notion de klal. Comment ce degré-là est relatif et lié à la terre d'Israël? Donc, j'ai écrit un cours, et on va essayer de comprendre ensemble comment les choses se développent. Sifrei Torah, je cite maintenant un passage du Rav Kook, dans Oros HaTorah, au chapitre 10, 5, nous dit le Rav Kook, Sifrei Torah, les secrets de la Torah. D'ailleurs, dans le mot Sefer, il y a aussi la notion en hébreu de Sas. Sira en hébreu veut dire une contradiction. Non, pas une gifle. Une gifle, c'est avec un T. Ça, c'est avec un Tav. D'accord ? Sira avec un Tav, c'est une contradiction. C'est très bizarre, d'ailleurs. L'histor es dvarecha, c'est contredire tes paroles. Un histoker et maché amarta. C'est-à-dire, je contredis ce que tu viens de dire. Esther, Amalka, la reine Esther, c'est-à-dire celle qui est dans la contradiction, elle est dans le paradoxe. C'est-à-dire, elle paraît et elle n'est pas. Elle joue des rôles où il se cache quelque chose qu'elle ne dévoile pas au départ et qu'elle va dévoiler après. Donc tout ceci s'inscrit dans le mot Sira. Akadosh Baruch Hu lui-même est dans un paradoxe énorme par rapport à nous. Parce que d'un côté, c'est le générateur de tout, c'est la source de tout. De l'autre côté, nous, on ne le voit même pas. On n'arrive même pas à savoir et à comprendre et parfois même à être dans la certitude, y croire. Alors il y a un verset dans Tehilim, Yosher, Beseter, Elion. C'est-à-dire, on parle de lui, à Kadosh Baruch Hu, il est Yosher, il est installé, Beseter, Elion, dans une contradiction supérieure. Donnez-moi un exemple de cette contradiction, c'est énorme. À Kadosh Baruch Hu se trouve chez un voleur, qui est en train de courir, avec ce qu'il vient de voler. Et il est en même temps chez celui qui vient de se faire voler. L'un court après l'autre, et Akadosh Baruch Hu fait vivre les deux. C'est très difficile à comprendre pour un homme. Pour l'homme limité que nous sommes. Alors comment ça marche? Ce qui permet au voleur de voler, c'est bien une force de vie qui est en lui. Est-ce qu'on peut dire que le divin participe à son vol? C'est bizarre. Il va même peut-être prier pour ne pas se faire attraper. Alors la contradiction devient encore pire. Vous comprenez comment c'est très difficile? Nahon. Mais en attendant, il vit de cette même vie, c'est-à-dire du Créateur, du Tout-Puissant. Donc il y a une certaine contradiction que nous les hommes, nous avons du mal à comprendre. Et nous, de toute façon, il faut qu'on fasse très attention de ne pas faire un amalgame de toutes les données. Sinon, on ne peut plus juger réellement les choses. Ça, c'est le danger de la Kabbalah. Le danger de la Kabbalah, c'est justement avoir une vision tellement grande des choses qu'en réalité, tu te dis, mais attends, même le voleur, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Chas v'shalom. Donc on peut tomber dans cette erreur. Donc il faut faire très attention dans cette étude, parce que justement la vision devient de plus en plus large, de plus en plus englobante, qu'on peut tomber dans une erreur de jugement, et de ne plus savoir où est le bien et le mal, parce qu'en réalité, et le bien et le mal font partie du même système. Après tout. Et donc ceci n'est pas donné aux hommes. Nous, nous devons nous affairer à voir les choses telles qu'elles apparaissent, et si cet habillement, si cet habillage de l'infini béni soit-il apparaît sous des formes négatives, on doit s'en éloigner. On ne doit pas se dire non, c'est le bien aussi. Il y a du mal dans ce monde. Même si ce mal, c'est un manque de révélation du vrai bien. Mais nous, nous devons nous mettre à ce niveau-là pour savoir juger et condamner certaines choses qui sont mauvaises. Sinon, tout devient possible et tout devient bien. C'est une vision qui est vraie dans l'absolu, mais qui est très dangereuse dans la vie. Et donc, il faut qu'on fasse très très attention à réellement choisir la révélation, la cristallisation, l'apparition du bien avec des valeurs de bien. Et pas se dire que tuer quelqu'un, c'est le bien. Parce que là, ça devient prendre la vie et la transformer dans la négation de la vie. Donc il faut faire très attention, les choses sont très délicates. Et nous, nous devons tout le temps rester à notre niveau humain et avec la vision du bien et du mal, parce que nous sommes dans cet état de bien et de mal. Alors que dans l'absolu, le bien et le mal disparaissent en fait. Machon. Ça aussi, c'est une façon donc d'hérésie, on peut arriver à cela. Et on peut en fait confondre tous les degrés. Et en fait, dire, c'est pas moi qui ai fait la chose, c'est Dieu qui est en moi. Quel ?
Quand on a fait le monde, on a la notion de Tabouret,
où
il y avait comme
tout le bien et le mal présent dans le monde, c'est pas dire qu'il n'y avait pas de bien et de mal.
Non, mais...
Le bien et le mal existé, mais il n'était pas encore à l'intérieur des êtres. Il est rentré à l'intérieur de l'être au moment de la consommation de l'arbre. Il est existant, mais qu'est-ce que ça veut dire existant ? Potentiel. Potentiel. Potentiel, ça dépend ce que tu fais avec un potentiel. Qu'est-ce que c'est un potentiel ? C'est une valeur absolue. Imaginons que tu aies un chiffre 10. C'est plus ou moins 10 ? C'est 10. Tu comprends ? Donc c'est pas encore une notion de mal. Si toi tu prends le 10 et tu mets un signe moins devant le 10, ça devient un moins 10. C'est la même puissance en négatif. C'est ce qu'Adam Arishon a fait lorsqu'il a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La chôme, valeur absolue.
Bien.
Le bien et le mal ne s'expriment pas seuls, encore une fois. Non. Il y a fait. Une fois que Adam Arishon a foncé, le mal est à l'intérieur de nous. Mais en potentiel. Encore une fois, il y a des mondes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais puisqu'on traite des mondes supérieurs, il y a quand même un monde qui s'appelle Bria. C'est-à-dire que le mal, il est dans ce degré-là. Où est-ce que je sais qu'il est dans ce degré-là ? Il y a un verset, « Yoter or ou boré » en cher. C'est-à-dire le mal se trouve dans Bria. Or, Bria égale valeur absolue. C'est comme ça qu'on définit une valeur absolue en mathématiques. Hein ? C'est-à-dire qu'il n'y a ni plus ni moins. Là, plus bas que ce monde, il y a le monde de Yetzira. Que veut dire le monde de Yeshira ? Prendre la Bria et mettre un plus ou bien un moins. C'est pour ça qu'on appelle Yeser Aton et Yeser Ara. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui travaillent seules. C'est moi qui prends la même puissance qu'il y avait dans la Bria et je la fais descendre dans mon monde de Yeshirati. Je suis créateur. Je suis arrangeur, je suis façonneur, j'ai un sens imaginatif, donc je prends la Bria et j'en fais ma Yetzira. Donc c'est moi le responsable de mon bien et de l'inverse, Chas v'Shalom. Sinon, on ne peut pas me juger. À tort. Mais c'est à tort, ça existe. Nahon. Nahon. Et le mal lui arrive. Nahon. Ça veut dire quoi? Parce que nous sommes dans ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, et dans ce monde, il y a une majorité, en fait, de camoufler, de cacher, plus que de révéler. C'est-à-dire, l'arène dans laquelle on joue, elle est contre nous, à la limite. Parce qu'il y a beaucoup plus de noix, de cachettes, de non-vision de l'éternité, que de vision. Donc, moralité, il est plus facile de tomber dans quel côté? Dans le plus ou dans le moins? Dans le moins. C'est ça en réalité. C'est-à-dire qu'on a été placé dans un monde, mais pourquoi on nous a placé dans ce monde? C'est pas qu'on nous a placé. C'est que la force du premier homme a fait descendre les mondes au niveau dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, même la position, même la hauteur de la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de cette force. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, en fait? À remonter vers une plateforme d'un monde où ces notions qui cachent tout aujourd'hui n'existent pas, ou en tout cas existent beaucoup moins. C'est ça l'époque messianique. L'époque messianique va monter le monde vers un monde où le bien et le mal sont clairs. Aujourd'hui, on se trompe tous les jours. Tu achètes une voiture, tu ne sais même pas si tu as bien fait ou tu as mal fait. Tu es toujours dans le doute. Il arrivera un temps où le monde va monter. Quand je dis une voiture, c'est facile, mais mariage. C'est le bon ou c'est pas le bon? C'est la bonne ou c'est pas la bonne? Je vais passer ma vie avec elle. Eh bien, tout ceci, c'est parce que nous sommes dans un monde qui cache le aimer. C'est pour ça que cette étude de Rabbi Shimon Bar Yochai va faire monter le monde. C'est comme ça que le monde va monter. C'est pas quelque chose qui va bouger à l'extérieur. C'est parce que nous allons voir le monde avec de nouvelles lunettes grâce à cette étude. C'est pour ça que c'est tellement important l'étude de Rabbi Shimon Bar Yochai et que la plupart du monde vit fête ce jour-là sans savoir même pourquoi il le fait. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette étude qui fait monter l'homme et le monde tout entier vers une valeur de certitude. De plus en plus, on va devenir certain de ce que nous faisons. On va voir clairement où est le bien. On va pouvoir choisir le bien facilement. Alors qu'aujourd'hui, on est déjà placé dans un degré qui est contre nous. Malgré nous, à cause de notre faute.
C'est comme
non. Non, on est déjà en train de le faire maintenant. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que pour faire venir le Mashiach plus vite, il faut commencer à étudier cette étude. C'est-à-dire, c'est comme si cette étude était un aimant qui capte les valeurs du Mashiach. Et quand le monde va commencer réellement à toucher cette étude, vous le faites sans le savoir. Par tous les cours que vous recevez, on vous dit, distille, on dit, en français, de cette Torah, mais d'une manière que vous pouvez avaler, goutte à goutte. Donc vous êtes en plein dedans, sans même le savoir, parce que vous avez des notions très profondes maintenant de la Torah. Vous voyez que ce centre d'études dans lequel vous êtes, ce n'est pas une étude où on vous dit « fais, ne fais pas, kasher, fasoul ». C'est beaucoup plus profond, on va loin à l'intérieur des valeurs. On vous donne une vision de vie qui va vous servir toute votre vie. Vous ne devenez pas seulement des spécialistes dans la halakha blanc-noir. C'est important aussi, mais ce n'est pas que ça. Cette étude va vous donner une vision beaucoup plus large de chaque chose que vous faites. Et c'est ça qui nous manque. Parce que quand je regarde quelque chose aujourd'hui dans ma vie, la plupart des gens regardent ce stylo, ils ne voient plus rien autour. Je fais dans un autre forum d'études, des exercices. Comment? Il y a une salle de 70 personnes, 100 personnes qui regardent un film que j'ai filmé. Et je leur distribue des feuilles en leur disant, raconte-moi ce que tu as vu dans le film. Qu'est-ce qu'ils voient? Ce que moi j'ai voulu qu'ils voient. C'est-à-dire, j'ai mis quelque chose en première scène, en premier plan, vachement difficile, et je fais derrière, en arrière-plan, passer des trucs qui n'ont aucun rapport. Une chèvre, un type avec des ailes, personne ne le voit. Après, je repasse le film, je dis, mais vous avez tout raté. Pourquoi ? Parce que vous avez tellement fait un zoom sur ce degré que moi j'ai eu envie de vous faire montrer, vous êtes tous tombés dans le piège. Vous n'avez rien vu d'autre. Et d'ailleurs, dans une caméra, c'est ce qui se passe. Si je fais zoom sur ce stylo, tout le reste de la photo devient flou. Vous êtes d'accord ? Essayez de faire un zoom sur une caméra. Ça peut pas être net ici et net autour, c'est pas possible. Mais c'est comme ça la vie. La Kabbalah, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle nous dit, attention, éloigne-toi un petit peu parce qu'on est en train de t'embrouiller. Regarde ce stylo, mais regarde où il est. Il est en plein milieu d'une classe, il y a des filles ici. Il y a des fenêtres. Je vois même à l'extérieur. Il fait beau, il fait jour. C'est-à-dire que tu commences à voir et la chose et tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est la Torah de la Kabbalah. C'est ça la Torah des secrets. C'est ça la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, vous comprenez, Gal Einai Ve'abita, enlève-moi ce voile. Ve'abita pour que je puisse voir, Niflaot, tout ce qui était caché, en fait. Ni Toratecha, de ce que tu veux me faire passer, car la Torah, c'est la vie. C'est pas seulement un texte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc, cette Torah est très importante parce qu'elle nous apprend, elle nous éduque à voir l'ensemble et à ne plus focaliser seulement. Et ça, ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous pouvez facilement tomber dans un piège en mettant en relief un sujet. Et tout le reste, si tu n'es pas fort à voir le reste et à faire voir aux autres qu'il y a aux choses des tours qu'ils n'ont pas vues, plein de trucs autour. Eh bien, tu vas tomber dans le piège et tu vas faire tomber les autres avec toi. Donc les Chachamim nous disent, fais attention même où tu étudies la Torah. Il faut que ton maître, celui qui t'enseigne la Torah, il ait cette vision-là. Il ait cette vision du détail que tu es en train de voir, mais en même temps, du tout qui l'entoure. C'est pour ça qu'il faut se chercher un maître. Vous savez que ça dure une vie pour se trouver un maître. Il y a qui ont la chance de le trouver jeune. Il y a des gens qui leur faut... Et moi, j'ai mis 30 ans à trouver, 40 ans à trouver un maître. 40 ans à trouver mon maître réellement qui va me féconder à chaque cours. C'est-à-dire quand je sors du cours de mon maître, de mon rave, je peux écrire un livre. Chaque cours, je peux écrire un livre entier. Pourquoi ? Parce qu'il me remet tout en place. Dans ma tête, c'est un ordre magnifique. Donc tu ne peux plus changer, c'est fini. Une fois que tu as goûté à ton maître, c'est fini. Et ça, c'est le secret qu'il doit y avoir entre un rave et son élève. Le mot Talmid vient du mot Leïda, c'est-à-dire accoucher. Mais il y a l'aide. Donc le Rav devient en fait, par rapport à moi, comme un accouchement. Je lui fais accoucher à mon Rav une Torah que je sors de lui, car je suis son accoucheur. Ani Meyaled Oto, Ani Talmid. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Et donc il va dévoiler des secrets qui ne sont pas seulement dans le degré lui-même qu'il est en train de m'enseigner, mais j'arrive à entrevoir dans ses paroles et à en écouter dans les silences de ses paroles tout ce qu'il y a autour. Très très important. Alors regardez comment le Rav Kook, ça c'était juste le mot, il sort, Sira. Sisrei Torah. C'est-à-dire que le premier degré que tout le monde a l'habitude de traduire comme les secrets de la Torah, vous comprenez maintenant que ça veut dire les contradictions de la Torah. Sisrei Torah. Gilles Rav Kook, donc, dans Europe, Sisrei Torah. Mitor shehem ba'im mimakor elyon, parce que cette valeur, parce que cette étude vient d'une source supérieure, mechizion ha'oz, de la partie la plus cachée, chizion ça vient du mot le'achbi, caché, machboim, cache-cache. Mechizion ha'oz, ça vient d'un degré très caché de ha'oz. Qu'est-ce que c'est ha'oz en hébreu? Gvura, c'est-à-dire de la puissance et de la capacité à mettre les choses dans leur mesure réelle. Car qu'est-ce que c'est un gibor dans le Pirkei Avot? Ezo ou gibor? Hakovesh et Yitro. Celui qui arrive à contrôler quoi? Ça y est, c'est là. Hakovesh et Yitro, c'est-à-dire il met un signe plus à chaque fois qu'il a la possibilité de faire. Donc il est kovesh. Kovesh en hébreu veut dire conquérant, conquérir. Donc il conquiert son yesser. A kovesh et titre. Donc michevion aoz, oz c'est la même puissance, c'est la même chose, c'est une gvura. Prends l'appel oz, parce qu'il y a ici une azout, presque une effronterie. C'est-à-dire quelque chose que tu ne lâches pas, tu ne laisses pas passer. Et d'où est-ce qu'elle vient cette puissance? De la profondeur de l'âme. Autrement dit, le Rav est en train de nous dire avec des mots clairs, parce qu'à chaque fois que le Rav parle, tu as l'impression qu'il rentre dans des trucs, tu sais même pas où il veut arriver. Alors je vous dis clairement, il dit que les secrets de la Torah viennent d'un niveau très supérieur, qui vient de la puissance la plus profonde de la Neshama. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Il rajoute, d'où ça vient? D'une part, d'une parcelle du divin lui-même. Incroyable. Ça veut dire quand on étudie cette Torah, parce que c'est ça le sujet, il a commencé avec ça, Sitrei Torah. Quand on étudie donc Sitrei Torah, qu'est-ce qu'on étudie en réalité? Exactement, l'éternité. Donc c'est l'étude de l'éternité. Ça veut dire qu'on est en train d'étudier qui? Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous a donné la possibilité de l'étudier, de le connaître. Da et Hashem Elohecha ve'avdehu. C'est la première mitzvah que nous avons reçue à la sortie d'Égypte. Da, qu'est-ce que ça veut dire da? Sache, mais d'une manière intime. Car Adam a connu Ève. Et quel est le verbe utilisé là-bas? La même chose. Adam yada et trava. Et de cette connaissance est né un bébé. C'est-à-dire elle est tombée enceinte. Donc je dois connaître Dieu. Donc je dois avoir un rapport intime. Pour que de cette connaissance naissent quoi? Des bébés. Et quels sont les bébés qui vont naître? Toutes mes connaissances de Torah qui vont devenir comme des nouveaux bébés qui viennent de naître. Je vais commencer à savoir des choses et à connaître des choses que les gens qui étudient la Torah au bas niveau ne peuvent pas atteindre. Parce qu'ils n'étudient que des degrés apparents. Alors que moi, je suis dans la connaissance de la chose. Donc dans la connaissance, immédiatement, il y a rapport intime, donc fécondation. Donc je suis complètement dans le chidouche sans arrêt. Sans arrêt, j'ai des nouveaux bébés qui apparaissent sous forme de chidouchim de Torah. Okay. Très bonne question. La Gemara... C'est limité. Tu as raison. Tu as complètement raison. C'est limité. C'est-à-dire, nous resterons toujours des créés et lui restera toujours le créateur. Tu ne seras jamais lui. Ça peut te rassurer. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il nous demande? En fait, la Gemara, elle pose sa question. Mais qu'est-ce qu'il a demandé, Moshe, à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire « montre-moi » Ar'enina et kvodecha. Il lui dit pas, montre-moi ton intériorité. Il lui dit, montre-moi, qu'est-ce que ça veut dire kvod? Non. Ar'enina et kvodecha. Qu'est-ce que ça veut dire, kvod, en hébreu? C'est-à-dire ton poids. Comment est-ce que tu te manifestes dans ce monde? Nahon, Nahon. Et les Chachamim vont aller plus loin. Ils lui disent, qu'est-ce qu'il lui a demandé en fait? Ce que tu as demandé tout à l'heure, toi. Exactement. Pourquoi il y a Tzadik Veralo? Et pourquoi il y a Racha Vetovlo? C'est ça qu'il a demandé, la Gemara, il dit exactement ça sur ce verset-là. Tu vois, c'est, en fait, c'est toujours dans la même question. C'est bien, c'est important. Ça veut dire que Moshe demande à Kadosh Baruch Hu pourquoi, et je reviens au début du cours, quand tu apparais dans ce monde, ça apparaît avec des contradictions, des spiros. Pourquoi il y a une complexité, pourquoi il y a un paradoxe dans ce que tu fais dans ce monde, j'arrive pas à comprendre ça. Et quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Veraïta? Non. Il y a fait. C'est-à-dire, Veraïta est Achorai. Donc je vais te montrer mon... Qu'est-ce que ça veut dire mon arrière? Qu'est-ce que ça veut dire mon arrière? Pourquoi? Quand je vois qu'il a une face, c'est un dos.
Non, mais voilà,
non, allez plus. Achoré, c'est pas seulement à derrière, Sophie. Tu as fait, merde. Je te montrerai l'après. Epanaï, qui veut dire l'ifné. Regardez, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que tu comprendras pas les choses avant, tu comprendras les choses après, tu comprendras l'après des choses. Tu ne peux pas comprendre l'avant des choses. C'est-à-dire que toi, l'homme, t'es obligé de voir d'abord une apparition des choses, donc c'est déjà un après, et c'est seulement à partir de cet après que tu pourras remonter à la source. Tu ne pourras jamais voir la source. Ou panay lo yirahu. Kilo irani ha'adam v'chai. D'accord? Moralité, il dit à Moshe, vous, toutes les créations, vous serez toujours soumises au temps. Car il y a un avant et un après. Moi, Kadosh Baruch Hu, je suis avant cette notion de temps. Je suis dans un domaine que tu ne peux pas comprendre. L'avant et l'après chez moi n'existent pas. Tout est au même degré, au même moment. Et tu as raison. C'est une question qui est essentielle dans notre vie. Mais ce n'est pas tout ça qu'il s'agit. Quand ici on est en train de dire les secrets de la Torah qui sont une parcelle divine, c'est quoi en réalité? C'est comment Akadosh Baruch Hu fonctionne pour se révéler dans ce monde. Quels sont ses outils? Quels sont ses vêtements? Et une fois que j'ai appris le code vestimentaire d'Akadosh Baruch Hu, je peux savoir sous quelle face il apparaît aujourd'hui. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu apparaît avec un vêtement blanc, sans rentrer maintenant dans les détails, c'est-à-dire avec l'un de ses noms, eh bien, je peux savoir qu'il est en mode bonté, en miséricorde, en amour. Mais s'il apparaît dans un vêtement rouge, je peux savoir que c'est toujours de la bonté, mais elle apparaît maintenant sous la forme d'un guerrier. Donc il va y avoir une guerre, donc il va y avoir un obstacle, donc il va y avoir quelque chose de difficile, mais qui, à la fin du compte, amène toujours le même bien. Seulement, ça passe par un habillage qui est différent, qui est difficile, qui est plus difficile pour l'homme. C'est ça que cette Torah vient nous enseigner. Donc en fait, en apprenant cette Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah des vêtements, et c'est pour ça qu'on appelle sitré. Comment on dit donc caché? Léastir. Donc c'est la Torah des vêtements, des choses. Comment vont apparaître, comment vont cacher, on va cacher le message. Et toi tu vas devoir en fait, à travers ce vêtement, savoir comment Akadosh Baruch Hu apparaît maintenant. C'est ça le secret. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit, on ne va pas savoir l'essence des choses, on ne pourra jamais connaître l'essence de Dieu. Afam, impossible. Cette étude va nous apprendre à apprendre, ça va nous apprendre à apprendre. comment il apparaît dans ce monde selon ses différents vêtements, c'est-à-dire ses différents noms. Car les vêtements d'Akadosh Baruch Hu, ce sont ses noms. Donc on va étudier les noms, et selon les noms, ça va nous indiquer sous quel vêtement il est. Tu avais une question ? Quelle ? Exactement. Nahon, dans l'absolu. Nahon. Exactement. C'est-à-dire, quel est le sens même ? Pas seulement comment il est utilisé, quel est le sens de ce qu'il compose ? C'est-à-dire, maintenant qu'il est devant moi, j'ai un H2O. D'accord ? Ça s'appelle de l'hydrogène. C'est-à-dire, j'ai deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire moi avec ça ? Comment ça, ça va me faire vivre ? Alors, je peux commencer à étudier ça par la science. C'est aussi une étude de la Torah. Parfait, c'est une étude de la vie. L'étude de la Torah, ce n'est pas seulement des textes de rabbin. Il faut bien comprendre ça. Au moment où j'étudie la vie, j'étudie la Torah. Quand vous étudiez l'hébreu, dans un ulpan, chiloni, vous êtes en train d'étudier la Torah. Parce que vous êtes en train de décoder les lettres mêmes créatrices de ce monde. Vous comprenez ce que ça veut dire l'étude de la Torah ? Torah, ce n'est pas de la religion, c'est la vie, c'est l'être vivant qui apparaît sous toutes les formes. Donc si j'enseigne à l'université, par exemple, des secrets de chimie à des gens qui sont négatifs dans leur approche de la vie, c'est-à-dire des futurs terroristes, s'ils rentrent à l'université et qu'ils apprennent la chimie, j'ai le droit de faire ça ? Je n'ai pas le droit, je suis en train de leur enseigner des secrets de la vie, donc des secrets de la Torah, à quoi ? À des terroristes, à des futurs terroristes, qui vont utiliser cette étude pour fabriquer des bombes et pour détruire. Donc l'université est fautive. À l'entrée de l'université, je devrais placer des gardiens qui sont des passeurs de tests de savoir dans quel mental tu viens étudier. Mais ce n'est pas le cas. C'est universel, université, tout le monde rentre. Tu as plein de terroristes en potentiel dans les universités aujourd'hui. Et ils apprennent comment faire des mélanges pour créer des destructions. Donc la société est complètement fautive de toutes ces forces terroristes qui apparaissent dans le monde, parce qu'elle sait elle-même qui leur a enseigné ses secrets. Moi, si c'était moi maintenant, entre guillemets, je mettrai à l'entrée de l'université moi-même. Tu veux rentrer à l'université ? Bien, j'ai eu 2 heures de conversation avec toi sur la vie d'une manière générale. Je veux savoir de quelle matière tu es. Tu peux me mentir, mais je vais trouver un système pour décoder ton mensonge. Sinon, tu ne rentres pas. C'est comme ça aussi que nous devons faire avec nos élèves quand il s'agit des secrets de la Torah. Tu ne peux pas enseigner ces secrets à n'importe qui. Là, on n'est pas en train d'étudier les secrets, on est en train d'étudier de quoi sont formés ces secrets. Quand on commence à étudier les secrets, croyez-moi, c'est autre chose. C'est déjà comment est fabriquée la matière et quel est le sens de l'eau que je viens de citer maintenant. Et ça, c'est autre chose. Tu vois la vie avec un autre regard. Tu ne vois plus un verre d'eau. Quel ? Si je peux. Nahon, de nom, donc de vêtements. Nahon. Alors, je vais essayer de te répondre, c'est très facile. Je suis très contente de ta question, c'est une kabbaliste en potentiel, toi. C'est très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, tu dois souffrir beaucoup. Je sens. Et c'est bien. Ne t'arrête pas. Non, tu es obligé d'arrêter, tu es obligé de souffrir parce que marbe da'at, marbe machov. Les gens qui posent des questions comme toi souffrent. C'est pour ça que je le dis, je ne te connais pas vraiment, mais je sais que tu souffres. C'est obligatoire. Mais ne t'arrête pas de chercher, même si ça passe par cette souffrance. Parce que tu évolues, tu avances. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas recevoir la totalité du divin dans ton monde. Pourquoi ? Tout simplement, tu exploserais. C'est trop grand, c'est trop englobant, c'est trop tout. C'est comme si tu disais que le soleil qui rentre dans ce monde, il ne passe pas par des filtres. Il passe par des filtres, obligatoirement, sinon tu vas mourir de ce soleil. Et ce n'est pas le but. Donc le soleil, qu'est-ce qu'il fait ? Il va respecter en fait la couleur de la vitre que j'ai mise dans cette pièce. Je vais, pour atténuer sa lumière, peindre la vitre en bleu. Quand la lumière du soleil va rentrer dans ma chambre, elle va être, la chambre va devenir bleue. Ça veut dire pour autant que le soleil s'est transformé ? Non, c'est rien que par rapport à moi. C'est-à-dire mon accès au soleil est aujourd'hui bleu. Donc Akadosh Baruch Hu s'habille selon des vêtements que je suis capable de recevoir moi. Donc c'est une gentillesse, c'est une bonté divine de justement apparaître avec des vêtements pour ne pas nous tuer, pour ne pas nous brûler de trop lumière. Donc c'est ce qu'on appelle un simsum, une contraction de son infini, qui va nous arriver selon les couleurs que je suis capable de recevoir aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous apparaît. Maintenant, qui va peindre la vitre en bleu, en rouge, en rose, en noir, en vert ? Moi. Et entre toi et moi, la différence est énorme. Et entre toi et elle, pareil. Ça veut dire que ta vitre... Maintenant, il ne s'agit plus de la vitre de la vie, mais ta vitre de vie. C'est comme si toi, tu étais une pièce avec des fenêtres. Ta vitre à toi, tu la peins aujourd'hui comme toi tu veux. Comment est-ce que je fais ça ? Selon comment je me suis réveillé ce matin. Si ce matin, je me réveille avec une colère intérieure, ma vitre est déjà noire. La lumière que tu vas recevoir d'Akadosh Baruch Hu, elle sera noire dans la journée, Chas de Shalom, alors que lui, il est resté toujours dans l'infini. Si aujourd'hui tu te réveilles et tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris le secret, aujourd'hui je me peins en blanc. Quelle est la couleur que tu recevras? De la bonté. Si tu ne te mets pas en colère dans la journée, à chaque fois que tu changes de situation, dans l'instant où je te parle, tu es en train de me faire un sourire, tu es en train de recevoir un sourire. Tu t'habilles dans une colère maintenant, la lumière que tu reçois instantanément, elle est colorée. Ça veut dire que dans la journée, je peux passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, selon les états d'âme que je présente à Akadosh Baruch Hu. Donc chaque état d'âme que je présente est en réalité un écran de couleurs. Et je peux traverser ça en une heure, je peux être blanc, bleu, rouge, vert, tout ce que vous voulez. Et l'essentiel, c'est de devenir cohérent et continuel. C'est-à-dire d'être toujours dans la même tonalité si possible pour ne pas être lunatique. Sinon je ne peux pas savoir comment tu m'apparais. À chaque fois je viens t'embrasser, un coup tu m'embrasses, un coup tu vas m'arracher la joue tellement tu m'embrasses, un coup tu n'as pas envie de me voir, un coup tu me fais la gueule. On ne peut pas développer un système. Mais si tu es régulière dans ton approche, on peut construire quelque chose de beaucoup plus clair. Je suis en train de vous préparer au mariage. Faites attention.
Quelle ?
Exactement, de contrôle. De contrôle. Tu dois être dans un contrôle. Ezeugibor. Notre monde, c'est un contrôle perpétuel. Under control. Si tu lâches, t'es mort. Parce qu'en réalité, tu dis ce que tu as envie de dire, au moment où tu as envie de le dire, à n'importe qui, comme ça te chante, donc pas au bon moment, pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, et tu fais n'importe quoi, tu brûles tout. Donc sans arrêt, il faut que je... Regardez, j'ai plein de trucs à vous dire. Vous savez l'effort que je fais maintenant ? Je suis en train de me mettre des vêtements, des trucs, pour ne pas dire un mot plus qu'un autre, et ne pas dire plus que ce qu'il faut, pour ne pas révéler certaines choses qui sont interdites. Je suis en train de faire un travail, je transpire, moi. Vous êtes tranquille, vous êtes assis, hein ? Moi, je souffre, là. Parce que sans arrêt, je me mets des garde-fous, des trucs, ça oui, ça non, ça oui, mais à 20%, ça à 30%. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure, non-stop, à l'intérieur de mon être. C'est un travail énorme. Je sors d'ici, je fais comme ça. Épuisé, quoi. Mais en même temps, heureux. Parce que j'essaye de faire passer des degrés qui vous resteront Be'ezrat Hashem dans votre vie. Que vous direz un jour Be'ezrat Hashem dans 10 ans, dans 20 ans, j'avais des cours au Machon Ora quand j'étais jeune, qui m'ont façonné une certaine vision de la vie. Alors j'aurais gagné mon pari. Moi je ne suis pas payé moi ici, je viens gratuitement pour vous. Je prends de mon temps pour venir pour vous. C'est beaucoup d'amour. C'est-à-dire que je lâche tout ce que j'ai à faire et j'ai des tonnes de trucs. Je refuse des centaines de cours. Parce que c'est important pour moi d'être chita associé à l'éducation d'une certaine jeunesse que j'aime. Et je respecte ce que vous avez fait d'avoir quitté la France pour venir ici. Pour moi, c'est un niveau que je respecte le plus. Donc je suis prêt à donner pour vous. C'est moi qui vous dis merci. Comprenez ? C'est pas que je viens pour que vous me disiez merci. C'est moi qui vous dis merci. Je vous respecte pour ce que vous êtes. Parce que vous avez fait ce cheminement. Et je veux être donc associé à votre éducation, entre guillemets. Sans être dans l'orgueil, Chassé Shalom. Et on partage les choses. Et la même chose chez les garçons, après. On m'a connu. Je ne demande pas un clou, un sou pour ça. Rien. Ni pour la télé, ni pour le machin, ni pour les trucs. Parce que je veux faire partie de ça. C'est ma participation à moi, à cet avènement messianique qu'on est en train de préparer tous ensemble. Maintenant, même dans ce cours. Donc, tout ça, ce sont des changements toute la journée, sans arrêt. Là, tu es en mode réception, tu peux recevoir. Tu es en mode don, on fait passer par toi. Et donc, chaque fois, tu te colores d'un autre degré. Je vais plus loin, même la couleur de vos vêtements aujourd'hui montre l'état d'âme dans lequel vous êtes. Mais ça, je ne vais pas tout vous révéler, parce que sinon on ne va pas finir. Et les gens commencent à se regarder.
Okay. Par rapport aux écrans et justement à cette lumière, est-ce qu'on peut considérer que c'est comme un système d'énergie?
Okay.
Voilà. Okay. Et si, donc, quand vous l'expliquez, c'est moi. C'est moi qui reçois, c'est moi qui contrôle.
D'accord.
Est-ce qu'on peut être affecté par rapport à l'énergie qu'on
okay. Hein,
et être pas faible, mais... C'est-à-dire, ça dépend que de nous, on
ne
peut pas être contrarié parce qu'on
ne
reçoit pas contrarié, mais...
C'est pas seul. Tu n'es pas seul. Bien sûr, tu peux être influencé.
Et donc c'est ça, donc tu veux gérer.
Et bien sûr, il faut tout gérer. Regarde, là, tu es à moins d'un mètre de moi. Mm. C'est-à-dire, ce qu'on appelle dans la halakha, mon reshut hayachi, et ton reshut hayachi sont en train de se mélanger. Mm. C'est-à-dire, malgré toi, je suis un petit peu dans ton monde et tu es un petit peu dans mon monde, parce que la proximité physique joue un rôle. Ben, je suis influencé un petit peu par toi et toi un petit peu par moi.
Non, mon mental, il est parfait. Si mon mental, il est parfait. Non, mais je suis positif, je veux faire du bien.
Combien de temps?
Ah ben justement.
Ça change. Nous sommes encore une fois liés au temps. Donc tous les temps, tout le système change. Dans la Kabbalah, on dit qu'il y a un ange à chaque heure et à chaque minute. Ça veut dire un ange, c'est pas qu'il y a des malachim qui sont là et qui attendent. C'est qu'il y a un nouveau système qui se crée au fur et à mesure que la journée passe. Il y a des choses qu'il faut faire, par exemple, que le matin. Je ne peux pas faire le soir. Il y a des filotes que je dois faire le matin au moment où le soleil se lève. Pourquoi? Parce que le temps m'indique aussi certaines fenêtres. Tu comprends? Donc ces valeurs, tenir compte de plein de données. C'est la NASA, c'est un petit jeu à côté de ça. C'est énorme. On est en train de parler de quelque chose qui est en fait cosmique, qui englobe le tout. Vous savez de combien de parcelles d'énergie vous êtes fabriquées, vous, votre cerveau? C'est énorme ce qui se passe. Il n'y a aucun ordinateur qui n'arrive même pas à la cheville de votre cerveau. Et tout ça, il faut prendre tout en compte. Et la famille dans laquelle tu as grandi. Et l'endroit de ta naissance, et l'heure où tu es né, le jour ou la nuit, et le jour de ta naissance. C'est énorme, ça ne s'arrête jamais. Tu as des forces qu'on appelle des anges qui t'accompagnent parce que le jour de ta naissance, parce que le lieu, parce que l'heure, parce que machin. Et tu peux changer certains degrés quand tu arrives et que tu fais ton alliage. Tout ton système, il est en train de changer. Il y a une métamorphose de l'être. Et il va falloir se restructurer à Kadosh Baruch Hu s'occupe de tous ces détails. Il ne s'arrête pas de bosser avec nous. Il ne s'arrête pas, c'est non-stop, c'est énorme ce qui se passe. Ok ? C'est très complexe, bravo ça, il faut bien que vous compreniez ça. C'est presque vrai à une chose près. Quelle? C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que tu dis, c'est vrai, mais ça ne change jamais, jamais, jamais la donnée d'en haut. La donnée d'en haut, c'est toujours la lumière divine. Elle est invariable, inchangeable, rien du tout, t'as rien à faire là-bas. C'est toujours que du bien. C'est toi, c'est ton filtre à toi. La prière, c'est quoi? C'est changer de filtre, c'est tout. Donc si tu changes de filtre, la lumière va te pénétrer comme elle devait te pénétrer. Exactement. Tu offres un moment, tu offres une couleur, tu offres un instant, tu offres une qualité. Tu as bien précisé qu'elle a changé en qualité. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est prier? C'est pas demander. L'itpalel, c'est en hébreu, se relier. Ptil, c'est un lien, c'est un nœud. Donc l'itpalel, c'est être relié. Donc en fait, elle s'est reliée convenablement à une certaine source, donc elle a reçu le flux. C'est tout. Donc elle a ouvert en elle certains obstacles. Donc les détenteurs de nos vies, c'est qui? C'est nous-mêmes. Quand tu es ouvert, quand tu t'ouvres à certaines choses, et parfois il faut aussi lâcher prise, ça aussi il faut prendre en compte, tu laisses passer en fait le flux, sans trop combattre, sans trop vouloir contrôler. Ça aussi c'est un système chez les intelligents qui peut devenir en fait un blocage. Parce qu'ils sont trop dans la réflexion, en croyant que leur réflexion gère tout. Non. Parfois, il faut savoir lâcher prise. Laisse les choses faire. Tu vas rencontrer un garçon, n'essaye pas de tout savoir avant. Il y a des choses que tu n'as pas pris en compte, tu ne sais pas, tu ne peux pas prendre en compte. Laisse la chose, laisse le rendez-vous se faire, et tu verras. Le ressenti est important, la vision est importante, plein de degrés sont importants. Tu ne peux pas tout savoir d'avance. C'est comme les gens qui me disent, je fais mon alia, mais est-ce que tu peux me prendre des rendez-vous dans tous les domaines? Ils ont l'impression qu'ils ont des ordinateurs et qu'ils vont tout gérer avant d'arriver. Non. Je sais, moi, tu vas attendre le bus dans une tahana, quelqu'un va te proposer la place de ta vie. Je n'ai pas pris en compte, je ne sais pas, moi, ça. C'est tellement vaste, c'est tellement grand. Okay. Tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas tout contrôler, parce que ça, c'est de l'orgueil. Sache que tu es encore une créature limitée dans toutes les formes de limites, et laisse un petit peu l'absolu faire un travail. Toi, essaye d'être juste bien.
Alors, oh.
Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. D'accord. Dans ce que je suis en train de vous avertir. C'est-à-dire, fais les choses sans tomber dans le moi. C'est-à-dire, je ne suis pas le contrôleur de tout. Moi, je fais ce que la Torah me dit de faire, au niveau le meilleur, c'est-à-dire être une bonne personne. D'abord, avant tout, d'être quelqu'un de bien, qui est droit, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un sur lequel je peux compter, quelqu'un qui a une parole quand il dit quelque chose. Je me mets déjà des degrés de base. Pirkei Avot, on a étudié la semaine dernière un tout petit peu, soit quelqu'un de bien, un homme, une femme, dans tous les le secret du terme. Et après, comment savoir où la halakha t'interdit d'arriver, où est-ce qu'elle te guide. Voilà, juste avant de monter, quelqu'un m'a téléphoné, c'est un très grand musicien israélien. Très 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 grand musicien. Il me dit, voilà, beaucoup de concerts sont Shabbat. Qu'est-ce que c'est ? Je dis, tu me demandes à moi, je ne vais pas te dire de profaner le Shabbat. Moi, je te dis d'être le numéro un au monde. Il m'a dit, pourquoi ? Je dis, parce que quand tu seras le numéro un au monde, on va faire les concerts selon toi. C'est tout. Donc tu vas dire, moi, je peux faire jeudi ou dimanche. Vous voulez pas ? Je ne fais pas partie du truc. Il m'a dit, tu m'as donné la solution. Il n'est pas le deuxième, hein ? Premier. Il faut que tu sois le meilleur musicien du monde. Et il a les capacités, il va le devenir. Tu ne peux pas lui dire profane le Shabbat. Il n'y a pas de bracha dans ça. Ça, c'est la limite, l'une des limites. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Shabbat, c'est une journée qui est secrète. Mais en tout cas, je sais que si l'éternité m'a demandé à moi en tant qu'homme d'Israël, encore une fois, je rentre dans un autre domaine. Je suis né juif. Si j'étais né goy, c'est une autre histoire encore. Mais je fais partie de ce peuple. Donc le Shabbat, pour moi, c'est chok velo yavo. Mais deviens, essaye de devenir le meilleur musicien du monde. En plus de ça, t'es israélien, donc tu vas donner du kavod à Israël, tu vas donner du kiddush Hashem à Kadosh Baruch Hu, et fasse en sorte que les concerts deviennent des jeudis et des mercredis, et qu'ils m'arrêtent de les faire Shabbat. C'est tout. Toda Rabba, merci beaucoup. Voilà. Si un jour il devient le meilleur au monde, vous direz que c'était lui. Mais il a les capacités. C'est un jeune, un génie, quoi, brillant. Il a 21 ans. Mais brillant que vous ne pouvez même pas vous imaginer, quoi. Il est en train de rafler tous les premiers prix de partout. Voilà, des questions. Je ne peux pas lui dire, non, sors du système, parce que je l'induis en erreur, je le rends malade. Si je lui avais dit, ouais, tu sais, pour ta parnassa, il faut machin. Non. Moi, en tant qu'artiste peintre, je suis artiste peintre aussi, à part donner des cours, toutes les expositions de peinture, c'était Shabbat. Eh bien, j'ai décidé que je ne faisais pas partie de ces trucs. C'est moi qui les organise, et on organise selon moi, c'est tout. Et je veux un buffet cachère n'importe où dans le monde, même si je suis au Japon. C'est tout. Il faut arriver, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, à exiger ça. Sinon, vous n'avez pas Yoel en expo. C'est tout. C'est à vous de choisir. Alors, parfois, on me dit, alors, on n'a pas Yoel. Et tant pis pour eux, tant pis pour moi. L'okhassou, mais moi, j'avance. Non. 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 Va arrêter. Complètement. Tous les Shabbatos. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un examen Shabbat, il ne passera pas. À chaque fois qu'il y a un coup de Shabbat, il va le déplacer en dimanche ou en lundi ou en autre chose. Il doit se débrouiller. À devenir le numéro un pour qu'on lui demande, pour qu'on prenne en compte sa participation ou pas. C'est pour ça que je lui dis devient numéro un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans lui, quoi. Tu comprends ? Quand, à partir du moment où tu es numéro un, les gens, ils vont t'appeler quand est-ce que ça t'arrange qu'on fasse le truc. Parce que sans toi, on ne le fait pas. Et voilà. C'est tout. Tu deviens indispensable. C'est clair ce que tu es en train de dire ? Non, on n'a même pas fait trois mots, c'est extraordinaire. Donc, on est encore dans la parole du Rav Kook. Bishvika, donc, à cause de ce qu'on vient de dire, et par le biais de ce qu'on vient de dire, que représentent les titres Torah, tous ces secrets-là ? Sabriot ? Bishvika, hem yicholim leikanes el kol ha-levavot. Regardez ce que dit le Rav. Rav Kook, hein ? Il dit, grâce à ça, ces paroles-là, des secrets, elles sont en réalité, elles pénètrent tous les cœurs. C'est-à-dire que même des gens non religieux peuvent s'asseoir aujourd'hui à ce cours-là et se sentir concernés. Je ne suis pas en train de m'adresser à des gens religieux. Pourquoi ? Parce que tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début de ce cours d'aujourd'hui, c'est universel. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est un langage que n'importe qui peut entendre. Même un goy, oui ou non ? Parce que, non, je lui dis tout simplement d'être lui. et d'aller au fond de lui, et d'être fidèle et cohérent avec sa vie profonde. Et qu'il y a des forces que lui-même peut sentir sans savoir les définir. Je ne dis pas Dieu maintenant. Tout à fait. Parce qu'en réalité, ça n'a plus aucun sens à qui je parle maintenant. J'ai parlé maintenant au monde entier. Je peux faire passer ce cours à n'importe qui. Il va comprendre que par rapport à sa vie à lui, il y a une certaine donnée qui correspond à son être. C'est tout. C'est-à-dire qu'un non-juif, il a un filtre différent qu'un homme qui appartient au peuple juif, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins ou plus. C'est un filtre différent. Donc la lumière divine, quand elle va passer par lui, elle va passer par le goy qu'il est. Et ça peut être magnifique. Donc je n'ai pas à le convertir. Je n'ai pas à prendre un japonais à le rendre autre chose. Au contraire, je lui dis quoi ? Être, sois le meilleur japonais que tu peux être. Ne brouille pas les pistes. Tu es né faisant partie de cette culture, sois au top niveau de ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Et à un oiseau, je vais dire, sois oiseau. D'ailleurs, il n'a pas besoin de moi. Il ne se déguise jamais en autre chose. C'est un sadique, l'oiseau. Jamais j'ai vu un chat voter. Ça, c'est des dessins animés. Le chat, ça reste un chat. C'est-à-dire, c'est un sadique. Il est fidèle à sa nature, donc à sa Torah. Est-ce qu'il a une Torah, le chat ? Bien sûr. Elle est inscrite dans sa vie, dans sa structure moléculaire. Donc, tous les matins, il fait les mêmes gestes de chat. Il se nettoie, quoi ? Un brushing avant de rentrer dans la poubelle. C'est une boîte de nuit. Jamais j'ai vu un chien jouer un rôle différent de ce qu'il est. Tous les animaux, toutes les plantes, ce sont des sadikim à leur niveau. Parce qu'ils sont fidèles, cohérents à leur vie. Bien fait. Ils n'ont pas de libre arbitre. Alors ce sont des sadikim. Maintenant qu'ils aient ou qu'ils aient pas, pour moi, j'en ai rien à faire. Ce sont des sadikim. Ils sont fidèles à leur être. Oui. Toi, tu as maintenant le choix. Donc le travail devient de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que ta structure moléculaire, elle n'est pas active. C'est à toi de l'activer. En choisissant le bien. Plutôt que le mal.
Est-ce que la limite de notre libre arbitre, en train de décider que la divinité, elle va traverser notre vie,
c'est badal. C'est badal. C'est pas le rachat. Le rachat dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas te laisser rentrer. C'est ça le rachat. Je ne veux pas te laisser rentrer. Est-ce que ça veut dire que rien ne rentrera ? Non, puisque je vis de toute façon. Même la décision que je viens de prendre, c'est toi qui es en moi. Mais dans beaucoup de degrés, le rachat va empêcher en fait le divin de le traverser. Et c'est ce qu'on appelle rachat. Pourquoi ? Il est tellement avec lui-même, il devient en fait
Rasson, Shem, Asmo. Rachat.
Il est autour de lui-même, c'est tout. C'est le nombril du monde. Toute l'importance, c'est lui. Donc il s'en fiche complètement du reste. C'est ça, un rachat. Rachat, c'est pas un type qui fait pas Shabbat. Rachat, c'est l'égoïste. Par définition, par excellence. C'est-à-dire un homme qui en a rien à faire, ni de la structure de sa nation, ni du genre humain, on va dire, en élargissant. Moi, je m'en fiche, moi. J'ai mangé à midi, j'ai un resto ce soir, je vais au cinéma, et que le monde explose. Ça, c'est un rachat. Que des gens crèvent la dalle dans la rue, qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des machins, qu'il y ait des... Ça monte rien du tout. Ça, c'est un rachat. Un sadique, par définition, c'est quelqu'un qui, sans arrêt, il a envie que ce monde soit meilleur. Il a envie de multiplier la vie, la bonté, la joie. Moi, ça me fait de la peine si je te vois pleurer. Donc, je vais faire en sorte de tout faire pour que tu souris. Alors, je commence à jouer le rôle du sadique. C'est pas un rôle, c'est une vie. Et tu dois devenir comme ça. Tu dois souffrir quand tu entends que Chas V'Shalom, un soldat, est parti. Tu dois sentir que tu es concerné parce qu'un petit jeune de 21 ans, il est mort dans un tremblement de terre. Et qu'en même temps, les autres aussi, ça me fait de la peine. mais lui, il fait partie de mon peuple, donc je me sens un petit peu plus concerné, et je ne peux pas faire autrement. Il y a des structures à prendre en compte, mais j'aime l'univers tout entier. Ça me fait de la peine de voir un oiseau mort. Ça me fait de la peine d'arracher une fleur. À ce niveau-là, hein, regardez jusqu'où ça va. Hein. Non. Si c'est pour rien, oui, ça n'a pas le droit. Si c'est réellement pour un sujet bien précis, il faut rentrer dans les halakhot aussi, il faut savoir. Mais ça n'a pas le droit, Sam, de marcher dans la rue et de prendre une feuille d'un arbre, Sam, de l'arracher comme ça, parce que ça te fait plaisir, parce que tu es en train de discuter avec quelqu'un. Si c'est mazik là, tu as le droit de les tuer, mais pas directement. C'est-à-dire, je ne vais pas asperger le moustique lui-même, je vais asperger autour dans la chambre sans focaliser sur lui. Donc il va sentir ce truc-là, il va mourir. J'ai de la peine, mais il était nocif pour moi. Il peut, chas de shalom, transmettre des maladies, des trucs comme ça. Je ne vais pas l'attaquer directement. Je vais mettre des trucs pour les fourmis, pas sur la fourmi. Je vais mettre aux accès où je sais qu'elles peuvent arriver. Il y a plein de trucs. C'est-à-dire que je prends en compte la vie dans son entité globale. Ça va loin, Rabotai. C'est pas la Torah, c'est pas des petits machins, on étudie un petit truc et un petit machin. C'est très loin. Le Rav Kook, un jour, s'est évanoui dans la rue. Parce qu'un rabbin qui était à côté de lui, il a pris une feuille dans un arbre, il l'a arraché pendant qu'il parlait. Il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, après quelques minutes, il fallait le réanimer, il a dit que tout l'univers s'était perturbé au moment où il avait arraché la feuille. Et lui, il a senti ce tremblement de terre. Il faut arriver à ce niveau-là. C'est pas évident. Tu comprends à quel niveau on parle? Non. Non, au contraire, c'est tout. Parce que spirituel, c'est le prendre juste là-bas dans l'esprit. Alors que là, je suis en train de te parler de toute la vie dans son ensemble, pas spirituel, pas plus spirituel que matériel, c'est le tout. Si tu dis spirituel, tu as déjà mis Dieu dans une boîte. Dieu, il est spirituel.
Non,
c'est pas mal. Donc il est dans le tout.
Alors pour ceux qui ont peur, parce qu'il y a toujours son peur de spirituel et d'arriver à certains niveaux.
Nahon.
Son père peur du monde de la carrière.
Nahon. Les deux, c'est la même maladie. C'est la même maladie. C'est la même maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Les gens qui sont trop dans l'esprit qui ont peur de la matière, les gens qui sont dans la matière qui ont peur de l'esprit, ce sont deux maladies qui sont les mêmes, mais inversement proportionnelles. Et nous, nous devons éduquer, nous devons guérir de cette maladie et devenir entier. C'est-à-dire que je dois m'occuper de mon corps autant que je m'occupe de mon esprit. Tu n'as pas le droit d'être vilaine. Tu dois tout faire pour paraître bien, pour respecter ton corps, pour te maquiller, pour être belle. Pourquoi? Parce que tu embellis la vie. Parce que tu fais du kiddush Hashem. Quand je vois en fait le divin qui traverse une fille d'Israël qui est belle et qui fait en fait une réalisation de Dieu sur terre dans la beauté. Quand je peins, je dois faire en sorte que la toile qui va sortir soit belle. Quand je donne un cours, je dois faire en sorte que le cours que je donne soit beau. Je dois faire attention qu'il n'y ait pas de taches dans mes vêtements. Alors, il faut savoir, justement, gérer tout ça. Il faut savoir gérer toutes ces contraintes. Voilà, là j'ai une contrainte, regarde. Je suis obligé de faire avec, il va falloir que je me lave, que machin, que je cache en attendant que ça passe. Bien. Non. On dit, non. Ça, le Rambam dit, ce que tu es en train de dire, c'est que le Rambam dit quand il y a une Mida qui est extrême dans un sens, essaye d'aller dans l'autre extrême, mais pour revenir au milieu, pas pour rester là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un, Chas v'Shalom d'avare, il faut qu'il donne plus, mais pas pour donner plus et dilapider tout son argent, pour redevenir dans la médiane. Il faut toujours revenir au centre. Le judaïsme, Akadosh Baruch Hu, il est au centre, il n'est jamais dans les extrémités. Toujours au centre. Shabbat, c'est le centre de la semaine. Il faut toujours arriver au centre. Nous sommes Emsa. Donc il faut sans arrêt gérer, sans arrêt savoir si tu es un petit peu plus dans un domaine. Quand tu manges trop, ça aussi, il faut faire attention. Donc tu vas en fait essayer d'aller de l'autre côté, mais pour revenir à une normalité. Pas la peine à chaque fois de devenir folle, que tu vois un verre, tu te dis, bon, 30, 40 calories, 50 calories. Ça, c'est déjà une maladie aussi. Ça devient obsessionnel. Il y a des gens qui tombent là-dedans aussi, ça devient des malades. Donc, tu n'es ni dans un degré, ni dans l'autre. Il faut que tu sois au milieu, que tu manges de tout, mais avec mesure. Car tu vas payer même, dit la Gemara, sur des choses que tu as vues et que tu n'as pas profité. Et tu vois un chas de shalom, un gâteau dans une boulangerie, si tu te prives, eh bien un jour tu rendras des comptes, il y a marqué comme ça. Sur tout ce que tu avais pu manger, tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tu fasses la bracha. Alors comment tu fais? Eh bien, tu prends ce gâteau, c'est un millefeuille, tu le partages en 6, en fait. Tu manges un petit bout, juste pour goûter, parce que tu ne restes pas avec l'envie, tu donnes 5 morceaux qui restent à tes copines. C'est tout. Donc il faut toujours trouver un degré d'équilibre. Toujours trouver un équilibre. Ni plus, ni pas assez. Ça, c'est tout ça, c'est le degré. J'espère que j'ai pu un petit peu vous montrer que cette Torah de Rabbi Shimon de Bar Yochai qu'on va fêter demain soir, c'est pas ça m'allumer du feu pour faire les fous. Les gens ne savent même pas ce que c'est Rabbi Shimon de Bar Yochai. Ils connaissent le Zohar, machin, il a écrit le Zohar. Alors et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est-à-dire une Torah qui prend en compte tout. Il n'y a aucun détail de ce monde qui sort de cette Torah. C'est-à-dire c'est une Torah qui parle à l'esprit, à la matière, dans tous les niveaux, à tous les degrés. Il n'y a aucun recoin dans cet univers qui est vide de cette présence divine. Et les kabbalistes voient le monde de cette manière, de plus en plus. Au fur et à mesure de leur étude, ils ne voient plus les degrés superficiels des choses, ils peuvent voir même l'intériorité des choses. Pourquoi? Parce qu'ils étudient le tout. Quand on se regarde, je ne vois pas qu'un corps. Il faut que j'arrive à voir sa neshama. C'est pour ça que les gens vont voir des grands rabbinim, des kabbalistes, pour leur demander des brachot. Croyez-vous que c'est des magiciens? Non. Simplement, ils ont habitué leur être à voir un tout. Donc ils savent où est-ce que tu as un petit peu de problème. Parce qu'il y a plein de choses qui donnent des informations que les gens, entre guillemets, de base, ne voient pas. Okay. D'accord. D'accord. Non. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. L'Ertov ne veut pas dire servir. L'Ertov, ça veut dire que je dois avoir un bon cœur, même si c'est en engueulant mon élève. Parce qu'il n'est pas à l'heure. Et qu'il arrive toujours avec un quart d'heure de retard au chiot. Au contraire, c'est par beaucoup d'amour que j'ai pour lui que je suis un petit peu sévère. Vous allez voir tout à l'heure au Machon Meir. Ils vont tous arriver à midi pile. Parce que la semaine dernière, ils ont reçu une... Ok ? Mais pas parce que je les aime pas, au contraire. Je les adore. Mais il faut qu'il y ait une structure. Les choses doivent être structurées. Donc, Chas de Shalom, on n'est pas dans la chrétienté où on te donne une gifle, tu donnes l'autre face. Pas du tout. On me donne une gifle, je peux sortir même mon flingue. Fais attention. Il y a fait. C'est un travail. Il faut savoir. Tout ce qui est, il y a fait. C'est un travail de vie. Tout ce qui est, d'une manière générale, anti-vie, je dois l'éliminer. C'est-à-dire, je ne dois même pas avoir des ressentis pour un terroriste. Je dois le rapprocher le plus vite de l'éternel. Avec 2 balles dans la tête. Sans aucun scrupule. Par contre, tous ceux qui sont pour la vie, mais qui ont une contradiction avec moi, il n'y a pas de problème, ils sont légitimes. Donc je dois travailler avec eux, même en étant sévère et en étant très 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 fort sur mes positions. Et presque en levant le ton, quand il le faut. Mais pas en haïssant l'autre, en disant je ne suis pas d'accord avec tes idées, mais toi je t'aime. Comme on doit faire entre nous. Même si je ne suis pas dans une structure de Torah qui est différente de la mienne, je ne vais pas haïr Chas v'Shalom, les autres. Je vais leur dire je ne suis pas d'accord avec ta vision de voir, mais toi je t'aime, t'es mon frère, t'es ma soeur. et ainsi de suite. Mais jamais être dans le serpillère. Si tu es une serpillère, on va faire avec toi le ménage. En hébreu, imatas martut, yatsu itrasponja. C'est un des slogans du Machon Meir. Donc il ne faut pas devenir des serpillères. Il faut savoir où vous allez, et votre structure, c'est vos données, c'est vos mesures. Il y a des mesures de vie. C'est tout. Merci.